Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour Bernard.
Bonjour Dominique et bonjour chers amis auditeurs.
Bienvenue donc pour cette leçon numéro 4 qui couvre la semaine du 18 au 24 juillet 2009.
Oui, et qui a pour titre « Marcher dans la lumière, garder ses commandements ».
Le verset à mémoriser se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 3.
Oui, voici ce qu'il dit. « À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements ». Et les questions clés concernant cette semaine sont les suivantes. Oui, quelques questions, bien sûr.
Quelle est la différence entre connaître Dieu et connaître des choses à son sujet ? Quel rôle notre obéissance à la loi de Dieu joue-t-elle dans notre relation avec lui ? Que dit Jean sur Jésus en tant que modèle de comportement ? Et quel est le commandement nouveau donné par Jean et en quoi ce commandement est-il réellement nouveau ?
Un pasteur avait organisé des séances de conseil conjugal avec un couple. Le mari avait eu des relations extra-conjugales, non pas une seule mais plusieurs. Il avait cherché à calmer les choses en assurant à son épouse que même s'il avait eu plusieurs liaisons, cela ne signifiait pas qu'il ne l'aimait pas. En fait, disait-il, il l'aimait plus que toutes les autres femmes.
Comme on pouvait s'y attendre, ces paroles, loin de régler le problème, n'ont fait que l'aggraver. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on aime, on le prouve par des actes et pas seulement par des paroles. Cette semaine, nous verrons avec Jean ce que signifie connaître et aimer Dieu. Tout le monde peut dire qu'il aime le Seigneur, mais la question est de savoir comment, d'après la Bible, nous sommes censés prouver cet amour.
Eh bien, si nous commençons l'étude de cette semaine par le dimanche 19 juillet 2009, et il y a un titre qui nous est proposé pour cette journée.
Et ce titre est « Que savons-nous ?»
Et à ce sujet, un premier texte nous est demandé, donc il se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, les versets 3 à 5.
« À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. » Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui.
La formule « à ceci nous savons », eh bien, elle apparaît deux fois dans ce passage. Mais que savent donc les chrétiens d'après Jean ?
Premièrement, ils savent qu'ils sont parvenus à connaître Dieu. Et deuxièmement, qu'ils sont en lui. Si l'on considère ce qui est en jeu, la vie ou bien la destruction éternelle, ce sont là des choses essentielles à connaître, n'est-ce pas ?
Mais en même temps, prenons garde de ne pas faire de la connaissance elle-même le moyen du salut. En fait, c'est précisément à ce genre d'hérésie que Jean s'attaque ici. Et dans d'autres passages, l'idée selon laquelle la connaissance est en soi source de rédemption.
La connaissance, ou gnosis, était fondamentale dans la religion antique. Et c'était un concept important dans le monde religieux des premiers siècles de notre ère. C'est probablement vers le IIe siècle qu'il s'est répandu, parmi les chrétiens, sous la forme d'une hérésie bien acceptée que l'on appelle le gnosticisme.
Cette philosophie ne s'embarrassait pas de moralité. L'accent était mis sur l'expérience mystique, ainsi que sur des mythes fantaisistes concernant Dieu et la nature de l'homme. Le salut se gagnait par l'initiation à ses connaissances ésotériques plutôt que par une relation avec le Seigneur basée sur la foi.
Lisons à présent quelques textes à propos de la notion de connaissance dans le Nouveau Testament. Prenons pour commencer Matthieu, chapitre 13, les versets 10 à 11.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. » Nous poursuivons nos lectures de quelques textes avec maintenant l'évangile de Luc, chapitre 1er, le verset 34.
Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et prenons à présent l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3.
« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous continuons avec Romains, chapitre 3 et le verset 20.
« Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Bernard, je t'invite à lire 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1.
Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Et enfin, un texte dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4.
Notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Dans le Nouveau Testament, les mots « connaître » ou « connaissance » ont un sens théorique et théologique. Mais ils expriment aussi une relation. Connaître Dieu signifie avoir avec lui une relation intime. L'obéissance, l'amour, le fait de renoncer au péché témoignent de l'existence d'une telle relation. Les aspects théoriques et expérimentaux de la connaissance doivent aller de pair.
S'il emploie souvent le verbe « connaître », Jean s'abstient, semble-t-il, d'utiliser le mot « connaissance ». Sans doute évite-t-il le terme le plus technique pour qu'il n'y ait pas de confusion avec ce gnosticisme. Connaissons-nous le Seigneur ou savons-nous seulement des choses sur lui? Quelle est cette différence fondamentale entre ces deux notions? Et surtout, si nous sommes dans le deuxième cas, c'est-à-dire si nous savons seulement des choses sur lui, comment changer?
Et voilà des questions qui terminent chacune de ces journées. Et nous abordons maintenant le lundi 20 juillet 2009, et là nous avons un titre général pour cette journée.
Garder les commandements.
N'importe qui peut dire qu'il connaît Dieu. En fait, beaucoup de gens ont prétendu cela, même à l'époque de Jean. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mais la parole est une chose si facile.
D'après Jean, peut-on dire qu'une personne connaît Dieu? Que dit-il d'autre à ce sujet? Je vous invite à lire avec nous donc le chapitre de Jean 14,
21. Et voici ce qu'il nous dit. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Nous poursuivons avec maintenant l'épître de Jean, la première épître, le chapitre 3 et le verset 22.
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et maintenant, nous prenons la première épître de Jean, chapitre 5, verset 3.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et enfin, un dernier texte pour aujourd'hui, Apocalypse 12, verset 17.
Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
Pour Jean comme pour Jésus, garder les commandements est primordial. Cette expression revient assez souvent dans les écrits de l'apôtre. Garder les commandements est le signe que nous connaissons Dieu, Jésus, et que nous l'aimons. Ici, l'amour et l'obéissance sont liés et font référence soit à Dieu le Père, soit à Jésus.
1 Jean 2, 4 souligne la même vérité en termes négatifs et fait peut-être allusion à une idée fausse répandue par ceux qui affirment que l'on peut connaître Dieu est néanmoins ne pas garder les commandements. Jean s'oppose à cette opinion en termes très puissants, traitant de menteur quiconque l'enseigne.
Oui, alors nous allons peut-être le lire, ce texte, il se trouve dans 1 Jean 2, verset 4.
« Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. »
Et voici quelques questions maintenant, Dominique.
Pourquoi le fait de garder les commandements montre-t-il que nous connaissons Dieu ? Comment notre obéissance à la loi est-elle le reflet de notre connaissance de Dieu ? Et enfin, quel lien y a-t-il entre observer la loi et connaître Dieu ? Tout un programme.
Connaître Dieu, selon la Bible, ce n'est pas simplement savoir un certain nombre de choses à son sujet. C'est une connaissance profonde, base d'une relation pleine d'amour. On ne peut pas aimer vraiment quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et si l'on aime une personne, on va se comporter avec elle d'une certaine manière.
Ainsi, le mari qui aime sincèrement sa femme ne la trahira pas. Mais il aura beau lui dire qu'il l'aime, si ses actes n'en témoignent pas, alors comme l'écrit Jean, il est menteur.
Et voilà. Et nous poursuivons cette étude avec le mardi 21 juillet 2009. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Là, il est question de...
Que ferait Jésus ?
Et nous avons un ou deux textes à vous lire. Nous commençons, je crois, par...
La première épître de Jean, chapitre 2, versets 6 à 8.
Nous lirons tout d'abord les versets 6 et 7. Voici, « Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui... » comme le Seigneur a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et nous continuons avec le verset 8.
D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà.
Il n'y a pas si longtemps, il était à la mode dans la jeunesse chrétienne américaine de porter des bracelets sur lesquels figuraient les lettres WWJD. C'est une abréviation d'une phrase en anglais, « What would Jesus do ?»« Que ferait Jésus ?» Si certains ont trouvé cela puéril, l'intention, elle, était bonne. Ne devrions-nous pas, en toutes circonstances, penser à nous demander ce que ferait Jésus à notre place et chercher à agir de même.
Eh bien, c'est à peu près ce que dit Jean ici. Dans la première partie de notre passage, il montrait que marcher dans la lumière et connaître Dieu, c'est lui obéir. Dans cette seconde partie, il invite les chrétiens qui veulent demeurer en Dieu et marcher dans la lumière à vivre en suivant l'exemple du Christ. Mais comment ? En cherchant à savoir comment Jésus a vécu et en comparant au quotidien, leur conduite à la sienne.
Oui, en d'autres termes, que ferait Jésus à notre place ? Même si les évangiles ont pour point culminant la mort et la résurrection de Jésus, ils renferment suffisamment d'informations sur sa vie et ses enseignements pour nous permettre de comprendre comment, dans l'idéal, chacun de nous devrait vivre.
Il est important de ne pas l'oublier, car parfois on se focalise uniquement sur Jésus en tant que sauveur ou substitut, et non sur Jésus en tant que Seigneur et modèle. Jean considère Jésus à la fois comme son sauveur, mais comme son exemple. Dans 1 Jean 1,7, il parlait du sang purificateur du Christ, et dirigeait ainsi nos regards vers la croix, où Jésus est mort. Mais dans 1 Jean 2,2, il nous présentait Jésus comme l'expiation pour nos péchés, notre substitut. Mais dans les versets que nous étudions cette semaine, c'est l'autre aspect qui ressort. Jésus a mené une vie exemplaire et nous devons suivre ses traces.
Qui que nous soyons, nous rencontrons pour la plupart des difficultés dans notre vie. pensons à ce qui constitue le plus grand défi à relever, le combat le plus difficile à mener. Puis posons-nous la question suivante : que ferait Jésus ? Et qu'est-ce qui m'empêche d'agir de même ? Eh bien, nous terminons ainsi cette journée du mardi.
Et nous voici à la journée du mercredi 22 juillet avec comme titre
« Un commandement nouveau ».
Après avoir montré qu'il est important d'obéir aux commandements, Jean, dans les versets 7 et 8, introduit la notion de commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau ? La réponse se trouve dans Jean 13, 34 où apparaît la même expression. Lisons ce verset, Bernard.
« Je vous donne un commandement nouveau ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Après avoir montré à ses disciples ce que signifie servir, à savoir aller jusqu'à s'agenouiller et accomplir l'humble tâche du lavement des pieds, Jésus donne ici un commandement nouveau. Ses disciples doivent s'aimer les uns les autres tout comme il les aime.
La situation est la même dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 6 à 8. Après avoir rappelé qu'il est nécessaire de marcher sur les traces de Jésus, Jean évoque le commandement donné par celui-ci dans Jean 13. C'est le parallélisme avec Jean 13, 34 et 35 qui permet de comprendre le sens de 1 Jean 2, 7 et 8. Le commandement dont parle Jean est celui qui concerne l'amour fraternel entre croyants.
Mais alors, pourquoi déclare-t-il qu'il ne s'agit pas d'un commandement nouveau, mais d'un commandement ancien ? Parce que le commandement qui touche à l'amour du prochain figurait déjà dans l'Ancien Testament. Nous le trouvons dans le livre du Lévitique, chapitre 19 et verset 18. Quand Jean a écrit sa lettre, le commandement nouveau de Jésus, celui que nous avons lu dans Jean 13, 34, existait en réalité depuis des années.
Pourtant, ce commandement était nouveau en ce sens qu'il trouvait sa réalisation dans la vie de Jésus et qu'il devait également être illustré, mais d'une façon toute nouvelle, par celle de ses disciples. Le monde n'était-il pas entré dans une ère nouvelle, inaugurée par la première venue de Jésus ? Les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà.
En définitive, c'est la notion de loi divine qui relie la première partie de notre passage avec la seconde. Tous les commandements se résument en un seul, s'aimer les uns les autres. Marcher dans la lumière et marcher sur les traces de Jésus, c'est suivre ses commandements et s'aimer les uns les autres.
Lors des services de communion, nous nous lavons les pieds les uns les autres. Qu'est-ce que cela révèle sur nous-mêmes et sur notre relation avec les autres ? Pourquoi cette façon de mourir à soi-même, qui conduit à servir l'autre, est-elle si difficile à réaliser dans nos vies personnelles ?
Oui, c'est encore une question importante à laquelle il faut réfléchir. Nous poursuivons cette étude avec le jeudi 23 juillet 2009 et elle a pour titre
« Aimer les autres ».
Et nous allons lire quelques textes encore, et tout d'abord dans 1 Jean chapitre 2, nous lirons tout d'abord les versets 9 et 10.
Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Et nous continuons avec le verset 11.
Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles.
L'amour a déjà été mentionné de manière assez brève dans 1 Jean 2,5. Il est clair qu'il s'agissait de notre amour pour Dieu, qui se manifeste lorsque nous gardons ses commandements. Dans la seconde partie de notre passage aujourd'hui, l'amour entre chrétiens est évoqué de façon indirecte, au moment où Jean annonce le commandement nouveau. En revanche, il est clairement énoncé dans cette dernière section de notre paragraphe qui commence également par l'expression « celui qui dit ».
Au verset 9, Jean affirme que le membre d'Église qui déteste son frère se trouve dans les ténèbres. Le verset 11 précise que non seulement il est dans les ténèbres, contrairement à celui qui aime son frère, mais il est aveugle. Dans cette lettre, précisons-le, Jean se soucie avant tout de la communauté chrétienne. Cela ne signifie pas qu'il nie le fait que les chrétiens sont appelés à aimer leurs prochains en général, et même leurs ennemis, mais ce n'est pas son propos ici, il a d'autres problèmes à traiter.
Détester son frère, c'est là un mot très fort, que nous n'aimons peut-être pas utiliser pour parler de nous-mêmes et de notre conduite. Nous préférons dire que nous sommes énervés ou qu'on nous a vexés. Mais l'Écriture utilise souvent le mot « détester » ou « haïr » dans certaines versions, dans un sens qui n'a pas tellement cours aujourd'hui. Comment ce mot est-il utilisé et comment doit-on le comprendre dans les textes suivants? Prenons par exemple Matthieu chapitre 6, verset 24.
« Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Encore un ou deux textes, tout d'abord Luc 14, verset 26.
« Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Prenons également le texte de Jean, chapitre 3, verset 20.
« Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. »
Dans les Écritures, ce verbe « détester » a non seulement le sens que nous lui donnons aujourd'hui, c'est-à-dire « haïr », mais il veut également dire que l'on fait passer une personne après une autre, que l'on préfère ou que l'on néglige quelqu'un. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de haïr une personne pour la détester dans le sens biblique du terme.
Eh bien, voici des mises au point que nous avons pu faire un petit peu cette semaine. Et nous terminons avec le vendredi 24 juillet 2009. Et là, comme d'habitude, pour aller plus loin, nous vous proposons quelques extraits de citations du livre « Conquérant pacifique » de Ellen White. Et tout d'abord, il est particulièrement important, en ces moments où s'achève l'histoire du monde, de marcher dans la lumière, ce qui implique de garder les commandements, vivre comme Jésus et témoigner de l'amour. La loi de Dieu est remise en cause et la question du vrai culte et de l'obéissance au Créateur va être de plus en plus d'actualité.
On trouve dans les Écritures l'exemple de personnes qui sont demeurées fidèles, même en des circonstances particulièrement éprouvantes, telles que Joseph, les amis de Daniel, Daniel lui-même et beaucoup d'autres. Mais l'exemple par excellence est celui de Jésus. Prenons la décision de le suivre, quelles que soient les épreuves.
Jean déclare que le véritable amour consiste dans l'observance de tous ses commandements. croire à la théorie de la vérité, faire une profession de foi, être assuré que Jésus n'est pas un imposteur et que la Bible n'est pas une série de fables habilement conçues, tout ceci n'est pas suffisant. Jean n'a pas enseigné le salut par l'obéissance, mais a déclaré qu'elle est le fruit de l'amour et de la foi.
Et à présent, dans la partie à méditer, nous sommes invités à nous poser les questions suivantes. C'est une chose d'observer les 10 commandements. C'en est une autre, d'aimer l'autre. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est le plus facile?
Le philosophe français Michel Foucault faisait la distinction entre deux sortes de connaissances. Celle qui change celui qui l'acquiert et celle qui n'apporte aucun changement. À quelle sorte de connaissance s'apparente la connaissance de Dieu et quel changement produit-elle dans celui qui la possède?
Et enfin, comment éviter de tomber à la fois dans le piège qui consiste à essayer de gagner son salut en observant les commandements et dans celui qui consiste à croire qu'on peut être sauvé tout en désobéissant à la loi?
Eh bien voilà, nous terminons ainsi cette semaine d'études et puis nous donnons rendez-vous à nos amis, auditeurs.
À la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.